J'ai légèrement modifié mon titre, hein, qui ça me paraît moins ambitieux et plus réaliste. Je vais parler de l'animal comme acteur peu visible du paysage. On a les paysages agro-sylvopastoraux de Sumatra, plus précisément du sud de Sumatra, dans la cordillère des Bukit Barisan, et dans le Morvan, en Bourgogne centrale. Alors, tout d'abord, une petite précision, c'est que ce sont des lieux, des régions dans lesquelles j'ai habité, travaillé, été au contact de la population avant d'y faire de la recherche. Donc, j'ai une approche de géographe, mais on va dire de géographe intégré à la population, ce qui m'a conduit à avoir une démarche ethnographique essentiellement basée sur de la discussion, de l'habitude. Des promenades et des parcours commentés avec les habitants à diverses occasions, qui me permettaient, moi, de m'intéresser à ce thème-là, parce que la discussion venait un peu naturellement. Alors, donc, vous voyez le petit point rouge, c'est précisément là où j'ai travaillé. C'est peut-être pas bon. Sur le côté. Toc. Voilà, ici. Donc c'est une petite zone, c'est la cordillère à l'ouest de Sumatra. C'est une zone très active géologiquement, beaucoup de séismes, de volcans. En son centre, c'est un plateau qui est à peu près à 900 000 mètres d'altitude, avec des sommets qui culminent dans cette zone-là à 1500 mètres d'altitude. C'est de la forêt tropicale d'altitude. Le centre de la cordillère est occupé par un parc naturel, par un parc national, pardon, qui est entouré de plusieurs millions d'habitants. C'est une population qui surtout est en hausse. Ces populations sont des populations mélangées dans la province où j'étais, l'extrême sud. C'est-à-dire que la côte ouest, on peut voir sur le petit schéma ici, enfin les piémonts ouest plutôt, qui descendent vers la plaine côtière et l'océan Indien, sont occupés par les populations, disons, autochtones, l'ethnie Lampung, qui pratiquent une agroforesterie qui est très extensive, avec des arbres très grands. C'est une agroforesterie collective, il n'y a pas de propriété privée, c'est de la propriété communautaire. C'est une agroforesterie qui est, en quelque sorte, un peu archétypique. Sur le plateau central, autour d'une ville qui s'appelle Liwa, il y a, pour monter sur les collines, une colonisation agricole venue de Java assez importante. Les Javanais, depuis 50 ans, ont largement colonisé cette zone-là et pratiquent une agroforesterie qui, elle, est beaucoup plus ouverte. Alors, c'est de l'agroforesterie parce que c'est l'agriculture sous couvert arboré, avec une part d'élevage. Ça peut être de la culture de café, ça peut être de la culture à cycle plus court, des légumes notamment. Mais c'est de la propriété individuelle, des plus petites parcelles. Alors certes, ça fait une grande mosaïque forestière, mais c'est enfin, agroforestière plutôt, mais c'est une économie, on va le voir, très différente. Dans le cas du Morvan, eh bien, on est dans un contexte très proche de ce qui vient d'être dit à propos du plateau des 1000 vaches. C'est une zone en forte déprise de la population. Ça a énormément baissé depuis les années 50. Aujourd'hui, dans le parc naturel régional du Morvan, il y a 71 000 habitants à peu près, une population vieillissante. D'après le président du parc naturel régional, sur un Morvan alors un peu plus large, ce qu'il appelle le Grand Morvan, qui prend en compte non seulement le PNR, mais aussi les zones granitiques autour, on a actuellement plus ou moins 50% de bocage et 50% de forêt. Ces 50% de forêt étant eux-mêmes à peu près à part égale composés de feuillus et de plantations, enfin de monoculture de résineux. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, épicéa, douglas, un peu de sapin. Il y a une extension actuellement des plantations de résineux. Et on va une légère qui prend essentiellement sur le bocage et une légère diminution des forêts de feuillus et des forêts mixtes. Donc finalement, ce qui m'intéresse, enfin ce qui me pousse à les considérer, alors pas à faire une comparaison au sens strict, mais plutôt à mettre ces deux situations en regard, c'est qu'on a affaire à des contextes de moyenne montagne, de petite montagne, où on a une certaine pression monoculturale qui n'empêche pas qu'il y ait malgré tout un maintien de l'agro-sylvopastoralisme. À Sumatra, la pression monoculturale se fait plus bas. C'est des pressions, la pression qui vient des plantations d'EVA, des plantations de palmiers à huile, mais aussi, quand c'est des gros concessionnaires de terres, par des plantations de café. Les petits planteurs pratiquent plutôt l'agroforesterie. Les gros planteurs, eux, font bien plus de la monoculture. Donc, on constate que aussi bien là-bas à Sumatra qu'ici dans le Morvan, les haies et les lisières peuvent être considérées comme un écosystème à part entière, un sylvosystème, comme dit Aliénor Bertrand, c'est-à-dire un système qui n'est pas reconnu à proprement parler comme étant de la forêt, mais qui contribue à, on va dire, à élargir les zones qui peuvent être habitées par les animaux, la faune vivant dans la forêt. Moi, j'ai parlé dans ma thèse de tiers-forêt, c'est-à-dire toute une série de forêts, de sylvosystèmes qui ne sont pas comptabilisés dans les grandes surfaces forestières, mais qui peuvent être vécues par la population comme tenant, en termes d'imaginaire, en termes aussi de pratique, de la forêt. Et dans ce contexte, l'animal est à la fois une clé pour comprendre les tensions foncières autour des forêts, mais aussi comme un enjeu en soi. Il est à la fois empreinte et matrice, comme dit Augustin Berck, de ces tensions foncières. Alors, pour explorer ces imaginaires, une entrée, c'est la langue. Pour explorer cette médiance, ce sens du milieu, qui est fait de pratiques linguistiques, mais aussi de pratiques plus concrètes. Il est important d'étudier ça à la fois en synchronie et en diachronie, c'est-à-dire d'avoir un état des lieux de la situation telle qu'elle est maintenant, mais aussi de se projeter dans l'évolution culturelle et dans des sociétés, et dans l'évolution foncière et des usages, des paysages et des lieux. Un exemple, c'est la manière dont les Indonésiens distinguent les parcelles en les appelant hutan, forêt, ou alors kebun, plantation. À partir du moment où une parcelle a été défrichée, c'est plus de la forêt, c'est de la plantation. Quand bien même elle est repartie dans la friche et quand bien même elle est devenue totalement impénétrable. À ce moment-là, les habitants d'un village continuent à parler d'une zone qui, alors ils appellent ça le belukar, c'est-à-dire la friche, et ils assimilent ça à une plantation. Pour eux, c'est une plantation qui va redevenir une plantation un jour. Ça n'est plus un espace forestier, quand bien même la faune, la flore ne relève plus du tout d'une plantation, n'est plus du tout anthropisée. Inversement, une petite haie de 5-6 mètres de large qui sépare deux parcelles qui sont cultivées en monoculture, monoculture de café par exemple, cette bordure sera appelée forêt. Elle reste considérée comme relevant du sauvage et non pas de l'anthropique, contrairement à toutes les zones qui ont été un jour déforestées. C'est ainsi que, et là pour le coup, ce n'est pas propre ni aux Javanais ni aux Lampung, l'agroforêt que vous voyez ici, qui abrite des arbres parfois de 30 mètres de haut, qui ont une centaine d'années, pour eux, ce n'est pas de la forêt. C'est de la plantation. Dans le Morvan, un point d'entrée intéressant, c'est de voir toutes les manières de qualifier les haies. Il y a énormément de noms différents pour énormément de types de haies différentes. Alors, vous pouvez voir ici certaines. On peut parler des tresses, on peut parler des bouchures, on peut parler des piéchis, ce qui dans d'autres villages est appelé les plessis. On peut parler aussi du pian. Tout ça, c'est des types de haies différentes qui chacune relèvent d'un usage du lieu qui n'est pas le même, mais qui rendent aussi des services écosystémiques qui varient. Là, vous avez un exemple de cette pléchie, cette trécie. Ce sont des haies, alors c'est sur le mont Beuvray. Ce sont des haies c'est de la haie vive, où les branches des arbres, enfin des arbustes plutôt, sont tressées entre elles. Alors là, vous pouvez le voir en hiver, donc ce qui permet de voir à peu près les branches entrelacées. En été, évidemment, ça fait un taillis absolument impénétrable, sauf pour toute une petite faune qui colonise ces lieux-là. Alors, dans le temps, ça peut évoluer. Quand les haies sont abandonnées, que les prés sont rendus à la forêt, eh ben, ça donne des arbres comme ça, au bout de quelques dizaines d'années, avec des formes totalement imprévisibles, assez fantasmagoriques, des arbres complètement tordus, qui se relient les uns aux autres. Enfin, des êtres vivants assez intéressants à voir. La place de l'animal là-dedans varie selon certains modes de légitimation. Dans les agroforêts lampung, très vastes, aucun problème avec les animaux sauvages. Les sangliers, les macaques peuvent passer, les agriculteurs, enfin plutôt les paysans qui habitent là et qui vont récolter les produits de la forêt, ça ne les gêne absolument pas. En revanche, dans les agroforêts javanaises, là, pour le coup, les agriculteurs n'apprécient pas du tout de voir des sangliers ou des macaques venir dévaster leurs plantations, parce qu'ils viennent manger les fruits, ils viennent fouiller la terre, détruire les plants. Ils parlent d'animaux voyous, les binatangs nakal. Cependant, même s'il y a des pratiques de chasse pour essayer de les effrayer, pour essayer, alors, sous le coup de la colère, comme on disait ce matin, je ne dis pas que c'est injuste, mais ça soulage, pour en dégommer un, dans l'idéologie javanaise, dans la conception du monde local, il y a malgré tout un équilibre naturel. La transgression que font ces animaux en venant piller les potagers, les plantations, est en quelque sorte naturalisée parce que c'est dans la nature de ces animaux d'être des voyous. Alors bien sûr, un agriculteur javanais va distinguer le gibbon du macaque en disant que le gibbon est un singe correct, binatang baik, parce que lui reste dans la forêt, il fait beaucoup de bruit, mais il y reste, alors que le macaque binatang nakal va descendre régulièrement faire des raids et abîmer la plantation. Mais c'est dans leur nature, donc c'est normal, et ça contribue à un certain équilibre entre les zones anthropisées et les zones naturelles. Et bien sûr, cela relève d'une construction historique. Cette conception-là, en Indonésie, actuellement, est plutôt celle des vieilles générations, les nouvelles générations, et ça, c'est probablement, je pense, en lien, j'en parlerai tout à l'heure, avec l'islamisation assez radicale qui se déroule depuis une trentaine d'années là-bas. Cette conception chez les jeunes générations a tendance à disparaître, et on considère que ce qui est mauvais n'a pas à être accepté, mais plutôt à être éradiqué. Dans le Morvan, il y a également un changement d'imaginaire au fil du temps. Et là, si on prend un temps plus large, le bocage au XVIIe et XVIIIe siècle, ça relevait du mouvement des enclosures. Ça favorisait les gros propriétaires par rapport aux non-propriétaires en faisant disparaître les communs. Au contraire, aujourd'hui, la population locale vit très mal la disparition du bocage, parce que ça relève du petit élevage, et que c'est menacé par la monoculture forestière, qui, elle, relève de gros propriétaires qui sont souvent étrangers au Morvan. Et donc, aujourd'hui, il y a toute une activité de protection du bocage, qui passe, par exemple, par des activités telles que le mois de la pléchie, qui consiste à apprendre aux morvandiaux actuels à refaire des haies tressées telles qu'elles étaient pratiquées et telles qu'on en trouve de moins en moins. Alors, je vais prendre un exemple d'animal qui est le sanglier et qui est intéressant parce qu'il a un grand impact imaginaire aussi bien à Sumatra, alors c'est le Sus barbatus, que dans le Morvan, c'est notre Suscrofa bien connu. Dans le Morvan et en France en général, il y a des lois très contraignantes pour protéger les élevages de porcs de l'hybridation. C'est-à-dire qu'un éleveur de porcs qui laisse un sanglier venir se reproduire chez lui risque plusieurs années de prison et des dizaines de milliers d'euros d'amende. Ici, il y a une volonté de plusieurs acteurs, l'État, qui est le législateur, les autorités agronomiques, agricoles, etc., de maintenir, et aussi des sociétés de chasse, de maintenir pure les races, maintenir pure la race sauvage, le sanglier, maintenir pure la race domestique, le cochon. Ça relève d'une conception de la nature assez ancienne que Aliénor Bertrand relie à notre héritage latin, la séparation entre les zones agricoles et les zones forestières. Donc ici, la nature relève à la fois de ce qu'on peut appeler les lois de la nature elle-même, mais aussi des lois pour la protéger. À Sumatra, le sanglier, ici, est généralement considéré comme un binatang nakal, un animal voyou, parce qu'il vient dévaster les champs, mais aussi parfois il s'invite dans les villes. C'était notamment le cas à Liwa, hein, où il y a une petite ville avec beaucoup de jardins privés, où régulièrement les sangliers font des descentes. Et cette conception du binatang nakal qui était acceptée parce que c'était sa nature de faire ça, en ce moment, et là, il y a une véritable implication, en tout cas dans cette province-là, des autorités religieuses là-dedans, qui vise à éradiquer le sanglier et non plus seulement à trouver un moyen de cohabiter avec lui. Ici, la nature relève d'une toute autre conception qui est religieuse. Alors, cette question de la nature, de la nature de la nature, de qu'est-ce que c'est que la nature et de qu'est-ce que c'est que dénaturer la nature, apparaît très fortement dans les légendes urbaines, c'est-à-dire les récits contemporains, qui parfois entrent dans les raconteries populaires, qui peuvent être transformées en contes par un simple effet d'exagération. Je vais prendre un exemple qui est celui de la chasse du Jean Lagneau. Alors ça, c'est une histoire relativement récente qui est apparue dans le village d'Hanau dans les années 80. Jean Lagneau, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Un jour, au cours d'une chasse, a tué un kangourou qui s'était échappé parce que c'était un kangourou qui appartenait à un petit zoo, qui avait fait faillite, qui avait été racheté par un privé. Et cette histoire-là s'est transformée et aujourd'hui, l'histoire de la chasse du Jean Lagneau, on dit que c'était quelqu'un un chasseur qui aimait beaucoup chasser mais qui n'avait jamais rien tué parce qu'il était très mauvais. Ses copains ont organisé une grande battue. Alors il canardait à tout va, il a tout raté, les sangliers, les chevreuils, etc. Sauf qu'il a réussi à dégommer un animal inconnu qui s'est révélé être un kangourou. Donc ça révèle pardon, une véritable inquiétude quant à ce qu'est la nature et ce qu'elle représente. Qu'est-ce qui relève réellement de la nature et qu'est-ce qui relève des perturbations humaines sur la nature? Ça apparaît aussi à Sumatra à travers toutes les racontars, enfin toutes les raconteries plutôt, autour des chiens redevenus sauvages qui vont manger des animaux domestiques. Qu'est-ce que c'est que cet animal-là qui se permet, alors qui est un animal domestique, mais qui se permet de revenir à l'état sauvage et en plus de venir détruire ce qui a été anthropisé. Donc ça rejoint toutes les questions de féralisation et d'espèces invasives, mais comme je suis arrivé au bout, je vais m'arrêter là, avec cette simple question. Est-ce que gérer le sauvage, gérer la nature, ça n'est pas une contradiction dans les termes? Est-ce que c'est une réelle possibilité ou est-ce que ça relève un peu de l'utopie? Parce que les dynamiques biologiques auront toujours une part d'imprévisible. Voilà, je vais m'arrêter là, et merci de votre attention.
Merci.